l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et rediffusée à 18h. Aujourd'hui, voyage dans le Grand Nord, le nord de l'Europe, plus exactement l'Écosse et la Scandinavie au sens large. Derrière ces régions septentrionales, il y a tout un imaginaire, il n'est pas nouveau. Bien sûr, les Vikings ont marqué durablement les régions qui forment aujourd'hui la France, surtout les côtes où ils ont débarqué. Les Écossais nous paraissent à nous Bretons depuis longtemps des cousins en kilt. Quand on part en voyage, on part voir l'étranger, l'autre, l'altérité. On se fait une idée de cet autre. Parfois, il nous surprend encore plus que ce qu'on en attendait. Au XVIIe siècle, il n'était plus question de Vikings ou de barbares. Quoique, les gens du Nord restaient encore largement une énigme pour la population du Royaume de France. Certains voyageurs s'y sont risqués, ils en ont laissé des récits écrits. Ce sont eux qui inspirent notre invitée, qui est doctorante en histoire. Elle travaille très précisément donc sur... C'est vous qui allez nous le dire. Bonjour Marie Beaujouan-Marlière.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous dire le titre de votre thèse en cours ?
Alors, je travaille donc sur altérité, nordicité et représentation des espaces septentrionaux au XVIIIe siècle.
XVIIIe, ah oui, un petit peu de XVIIe quand même.
Alors, c'était pour le mémoire.
Ah,
donc,
d'accord.
Donc, pour la thèse, on s'est un petit peu plus focalisé sur le XVIIIe.
Ah, très bien. Alors déjà, pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressée à ces sujets dès votre mémoire ?
Alors, c'est vraiment des sujets qui m'ont passionné le Grand Nord depuis que je suis enfant. J'ai beaucoup lu là-dessus. Et puis, quand je suis arrivée en licence d'histoire, je savais que je voulais aller jusqu'à la thèse. Donc, j'ai continué à lire, à lire, à lire, à étudier ces sujets-là. Et puis, voilà, j'ai fait mon mémoire sur ce sujet. Et puis, c'était... au-delà d'une passion personnelle, quelque chose d'intéressant au niveau scientifique, puisque si ce genre de sujet a été traité, par exemple, pour l'Italie, ou des régions plus méridionales, qui étaient très à la mode à l'époque...
Donc sujet récit de voyage, quoi, en fait, c'est
voilà,
ça.
Voilà, ouais. Exactement, la littérature de voyage en général, ça l'était très 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 peu, en fait, pour nos régions, de manière globale. Et puis, idem, la notion d'altérité était très intéressante à analyser, puisque... elle a été réalisée pour la Moscovie, donc la Russie actuelle, la Pologne, l'Orient, mais encore une fois, pas pour la Scandinavie. Ou alors, c'était à titre d'exemple dans une analyse plus globale. Mais il n'y a pas eu vraiment de corpus étudié d'un seul tenant sur ce sujet.
Et pour, en ce qui concerne votre passion pour ce Grand Nord, ouais. C'est parce que vous y êtes allée, je suppose.
Enfin, oui, j'ai eu la chance d'y aller. Mais ça me passionnait déjà avant même d'avoir mis un pied là-bas.
Et pour ce qui est de... Alors, on va le voir un petit peu dans le cours de l'émission. Pourquoi est-ce que ce Grand Nord, finalement, était très peu étudié ou intéressait peu au 18e ? Enfin, vous avez déjà un début de réponse à nous donner.
Et oui, parce que finalement, c'était assez éloigné du circuit. Alors, on a ce qu'on appelle le Grand Tour à l'époque moderne. C'est-à-dire, c'est un voyage initiatique des jeunes nobles à travers l'Europe pour les former au niveau de la culture, de la politique. Et ils ne passaient pas du tout par ces régions-là. Ça passait vraiment par l'Italie, par finalement l'Europe assez méridionale. Et ces régions n'intéressaient pas puisqu'on les trouvait peu intéressantes, assez laides au niveau du paysage. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt avant en tout cas le 18e siècle.
Le Grand Tour, c'est là, de là que vient le mot tourisme.
Exactement.
Bon. Donc, alors, en fait, on vous a, enfin, je ne sais pas si c'est vous qui avez été obligé d'étendre, entre guillemets, le territoire à l'Écosse. Enfin, vous allez nous expliquer pourquoi ce territoire-là, et quel est le territoire d'ailleurs concerné par votre thèse exactement ?
Alors, au niveau du mémoire, on a travaillé sur l'Écosse et la Scandinavie. Alors, quand je dis Scandinavie, c'est au sens large.
Oui, voilà, il faut nous expliquer. Ouais.
Exactement. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur donc, l'Écosse, qui dépend à cette époque-là de la Grande-Bretagne, donc du Royaume d'Angleterre, et puis aussi sur les royaumes de Danemark et de Suède. Alors, sous la domination du Danemark, on a la Norvège, l'Islande, le Groenland aussi, et puis, alors que j'ai pas étudié du tout en mémoire, que j'ai rajouté dans la thèse, et puis on a la Finlande qui dépend du royaume de Suède. Et du coup, on n'a pas voulu se limiter finalement à seulement le Danemark, la Norvège et la Suède. On s'est dit de toute façon...
C'est la stricte Scandinavie.
Exactement.
En fait, c'est ça.
Alors la stricte Scandinavie, c'est encore plus petit, c'est vraiment le sud de la Norvège, de la Suède et le Danemark.
Ah, d'accord.
Donc on s'est dit, mais tous ces pays ont finalement des échanges... Alors, parce qu'ils appartiennent au même grand royaume, puis des échanges culturels, commerciaux. Donc on s'est dit que c'était vraiment plus intéressant d'avoir une vision globale. Et puis, en fait, on a suivi nos voyageurs qui, souvent, font un tour. Quand ils vont dans le Nord, ils ne s'arrêtent pas souvent à un pays, ils font un tour du Nord. Par exemple, on a Thomas Pennant qui a appelé son ouvrage « Le Nord du Globe ». Et donc, il passe par l'Écosse, l'Islande, alors je crois que lui aussi fait la Norvège. Et donc, en fait, il y a un circuit. Et donc, on s'est dit, si ces voyageurs font un circuit, c'est qu'il y a une réalité dans leur tête. C'est que le Nord, c'est ça, en fait. C'est tous ces pays.
Et donc l'Écosse incluse, quoi. C'était pas délirant de mettre l'Écosse dedans.
Non, c'était
quoi.
Pas délirant. On aurait pu ne pas la mettre. Mais moi, je trouvais que c'était assez intéressant puisqu'on retrouve finalement des idées similaires concernant l'Écosse et puis l'Islande, la Norvège, le Danemark.
Alors ça montait quand même pas jusqu'au pôle, hein, on est d'accord.
Non, ça a été élargi pour la thèse, où là, on va prendre en considération aussi le Groenland, une partie de la Sibérie. Oui. Donc là, on a vraiment fait un nord du globe au sens géographique presque du terme. On prend le pôle.
Ah ouais, ouais. Vous n'avez peur de rien. Vous allez devoir y aller concrètement.
J'espère.
Bon, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Ouais. Et combien de temps, ouais, vous avez combien de temps pour faire cette thèse?
Alors, cette année, c'est vraiment l'année de préparation. On déblaye le terrain, on fait le projet de thèse, on récupère toutes les sources. Donc c'est vraiment on décortique le sujet. Et puis après, il y aura 3 ans. Pour vraiment rédiger, analyser.
Avec l'Université de Nantes, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça, plus précisément. Eric Schnakenbourg de l'Université de Nantes.
Très bien, on les remercie. Alors, pourquoi est-ce que c'est cette période du 18e que vous avez retenue finalement?
Alors, déjà pour un aspect pratique, parce que c'est là où on a le plus de récits, de voyages, de récits guides de voyage. Et puis parce qu'il y a vraiment une bascule à cette époque-là, surtout à partir du milieu du XVIIIe siècle, puisqu'avant, ces territoires n'intéressaient pas du tout. Et puis avec le pré-romantisme et après le romantisme, notamment au XIXe siècle, on va voir un engouement qui est absolument fabuleux pour ces territoires qui passent de laid, hostile à finalement très romantique et vraiment dans l'air du temps. Et puis on a tout le mouvement scientifique qui va trouver un intérêt fabuleux à ces régions puisqu'on a des particularités scientifiques que l'on trouve uniquement dans le Grand Nord. Je pense aux aurores boréales, aux volcans en Islande, aux geysers. Donc vraiment des particularités scientifiques qui va les pousser à aller voir en vrai ces territoires.
Et à écrire, bien sûr, à produire. Sûr. Et en français, vous êtes limité à la littérature francophone, entre guillemets.
Alors, francophone, mais pas française, puisqu'on a des voyageurs anglais, en tout cas pour mon mémoire, et on va rajouter des voyageurs allemands pour la thèse.
Qui écrivent en français?
Alors, pour le mémoire, qui écrivait uniquement en français, pour avoir un corpus cohérent et pour pouvoir étudier notamment le lectorat. Alors que pour la thèse, je vais également prendre des sources en langue maternelle, donc anglaise et allemande, pour mes voyageurs.
Bon, ça va. Et alors, ces voyageurs, il est temps d'en parler, justement.
Exactement.
Qui étaient ces gens, ces aventuriers? J'imagine surtout des hommes, d'ailleurs, mais...
Alors oui. oui.
Qui partaient dans le Grand Nord.
Oui, alors... Pour le mémoire, j'ai étudié que des hommes pour la thèse et j'ai trouvé une source d'une femme. Donc je me suis dit que c'était quand même très intéressant de la garder. Mais pour le mémoire, finalement, ce profil est très varié. Puisqu'on a globalement deux grandes catégories qui sont relativement équivalentes sur toute la période. C'est les scientifiques et puis les non-scientifiques. Alors c'est vrai que c'est très arbitraire comme pour les départager.
C'est selon le but du voyage.
Exactement.
Voilà.
Alors les scientifiques... En fonction de l'époque, ils représentent entre un tiers et la moitié de l'échantillon d'études. Alors, il y en a moins au début et puis plus à la fin. Donc, au niveau de la moyenne, ça donne à peu près ça. Et c'est ce qui est vraiment inédit sur les voyages dans le Nord, c'est qu'ils représentent une part qui est énorme par rapport aux autres types de voyageurs et par rapport aux autres régions, surtout.
Ah oui. C'est-à-dire qu'il faisait tellement froid là-bas qu'on y allait pour des raisons scientifiques d'abord, quoi.
C'est ça. Et puis, parce qu'encore une fois, il y a des choses qui sont inédites là-bas, qu'on n'a pas, par exemple, en Italie. Je sais pas, les aurores boréales, on voit pas. Alors, il y a des choses très intéressantes en Italie, attention.
On a des volcans aussi, exactement. Mais bon, c'est pas les mêmes que ceux d'Islande.
Et bien, justement, en fait, ça intéressait ces voyageurs qui allaient, par exemple, comparer les volcans italiens avec les volcans islandais. Ils sont toujours dans une volonté comparative, puisqu'on est à l'époque aussi de l'encyclopédie et tout ce genre de choses. Donc, ils veulent catégoriser, vraiment tout connaître du monde. Donc, on a ces scientifiques d'un côté, et puis de l'autre côté, ce que j'appelais les non-scientifiques. Et alors là, ils sont, encore une fois, il y a catégories socio-professionnelles très variées. Alors, sociaux moyennement, mais professionnels en tout cas très variées, puisqu'on a des hommes de lettres, des diplomates, des historiens, des précepteurs. Et surtout, ils peuvent cumuler en fait les professions ou les catégories. Souvent, ça, on s'arrête pas à, on n'est pas juste historien, souvent on est historien et précepteur, par exemple.
Oui, c'était, bah oui, c'est encore un peu vrai maintenant,
oui,
d'ailleurs.
Oui, oui, oui.
On continue à enseigner quand on fait de l'histoire. Et donc, ces explorateurs, enfin ceux qui sont non scientifiques, et quand même, est-ce qu'ils ont des raisons communes de partir, enfin la curiosité, mais où c'est, est-ce qu'il y a, par exemple, des côtés voyages d'études ou des raisons économiques même carrément
Alors encore une fois, c'est assez varié puisqu'on en a par exemple qui sont envoyés, bon, les diplomates, ils vont faire un rapport par exemple de la diplomatie dans ces pays-là. Ils sont envoyés à la cour.
Un peu comme des espions si on veut, enfin un peu
non,
officiel.
Non, pas vraiment, oui, des espions officiels, on peut dire ça comme ça. Mais voilà, ils vont améliorer les relations diplomatiques avec les rois de ces endroits. Donc les raisons, en fait, il n'y a pas vraiment une raison. Elles sont vraiment aussi variées qu'il y a de voyageurs, finalement.
Et ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'au XVIIIe siècle, ces contrées, bon, elles sont plus barbares, hein, on est d'accord. Enfin, est-ce que c'est quand même des contrées qui sont insérées dans les échanges économiques européens?
Ah oui, absolument. Oui. Depuis le Moyen-Âge, hein, parce qu'il y a des commerces qui sont très spécifiques à ces contrées. On a tout ce qui est peau, fourrure, on a le goudron, notamment en Norvège, on a le poisson.
Le goudron, c'est fabriqué comment, juste rappelez-nous
Alors le goudron, c'est à partir de bois, en fait.
Ouais.
Donc en Norvège, il y en a énormément. Et donc, dans la construction navale, c'est hyper important, notamment pour la Bretagne.
Pour étanchéifier les bateaux.
Exactement. Mmh,
d'accord. Donc, ça fait partie des circuits commerciaux.
Ah oui, tout à fait.
Et donc, ces voyageurs, d'ailleurs, comme c'est quand même des pays extrêmement maritimes.
Oui.
Vous êtes en Bretagne, en plus. Donc, c'est des voyageurs qui arpentent la mer, enfin ou vraiment la terre en général.
Alors les deux, mais ils vont plutôt souvent se cantonner aux côtes, puisque tout simplement en Scandinavie, les endroits habités souvent c'est les côtes. Les centres et des pays sont très peu peuplés, surtout à cette époque-là encore plus qu'aujourd'hui, et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a assez peu de grandes villes dans les centres de ces pays, donc souvent ils font le tour effectivement un tour plutôt côtier.
Ils y vont en bateau alors?
Ouais. Alors, on peut y aller aussi par la route, mais alors c'est long.
Ouais,
c'est
long. Donc, le mieux, c'est de partir en bateau.
Ah, oui.
Et on part d'où, alors?
Alors, de Calais, de la Bretagne, Brest. Brest, Calais, c'est vraiment plutôt les endroits dont on part. Alors, il y en a certains aussi qui remontent jusqu'à Amsterdam. C'est assez varié, hein. Ça dépend. Et puis, ceux qui font, par exemple, un tour en passant, il y en a aussi qui passent par la Pologne et les pays de l'Est. Dans un tour encore plus large que ça, la Russie. Alors eux, ils peuvent y aller par la terre ou alors des tout petits bras de mer, mais beaucoup plus limités.
Et on sait pour combien de temps, il n'y a peut-être pas de moyenne non plus, pour combien de temps ils partent en général quand ils vont se...
Non, enfin, ouais. C'est pareil, c'est du cas par cas. Il y en a qui vont partir 2 ans, il y en a qui vont partir quelques mois. Oui, entre quelques mois et quelques années.
Ouais, pour produire un écrit, de toute façon, c'est quand même du long séjour.
Oui, absolument.
Donc, les écrits produits, bon, il y a les publications scientifiques, bien sûr, mais sinon, les autres, alors, qu'est-ce qu'ils produisent?
Alors, il y a deux grands types de production. Il y a ce qu'on appelle les récits de voyage et les guides de voyage. Alors, ces deux catégories sont très poreuses, et parfois, on a des écrits, on n'arrive pas trop à les définir. Le guide de voyage, c'est l'ancêtre de notre guide de Michelin, de notre guide touristique.
Retard.
Exactement. C'est vraiment fait pour aider le futur voyageur dans son périple. Alors on va donner, ça n'a presque, j'ai envie de dire, absolument pas changé par rapport à aujourd'hui, on va donner les bonnes adresses des auberges, celles qu'il faut éviter, les bons endroits, les endroits touristiques, les endroits à voir. Donc c'est vraiment un guide, c'est un personnel, et c'est fait région par région, alors que le récit, c'est totalement l'inverse, j'ai envie de dire. On suit le voyageur, il parle à la première personne du singulier, et il va nous donner toutes ces petites anecdotes, ses expériences, c'est chronologique, et on le suit au fur et à mesure. Et là, c'est totalement subjectif, et c'est fait pour être subjectif.
Mmh. Et qu'est-ce qu'on sait des publics, de ces soit récits, soit guides?
Alors, le public, c'est comme les voyageurs, il est varié. Alors du coup, j'ai fait un échantillon de 52 lecteurs.
Wow.
Au niveau du public. Et alors, la part de lecteurs français et étrangers, elle est quasiment égale. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une belle diffusion des écrits. Et puis, il faut rappeler qu'à cette époque-là, le français, c'est la langue universelle. Hein, c'est pas l'anglais comme aujourd'hui. Donc, la plupart des personnes aisées ou des hautes classes sociales de tous les pays européens ou américains parlent français. Les propriétaires de ces bibliothèques, on a encore une fois deux catégories, soit les particuliers, soit les institutions, puisque les bibliothèques municipales existent déjà, les grandes institutions existent déjà, sachant qu'on est allé jusqu'au milieu du 19e siècle pour notre lectorat, puisqu'il faut penser que le temps de publier les écrits, de diffuser, de racheter, enfin, c'est très très long, donc on a pris quand même 50 ans après la fin de notre date butoir pour les écrits. Pour
la durée de vie d'un ouvrage.
Exactement.
Ouais, imprimé, bien sûr. Et vous imprimé. Êtes intéressé surtout à des ouvrages imprimés, je suppose.
Seulement imprimés.
Seulement, d'accord, ok.
Donc on a 37, sur les 52, on a 37 particuliers, donc ça fait beaucoup plus que les institutions finalement. Oui. Et alors on a une majorité de roturiers qui lisent ses écrits. Alors encore une fois, quand je dis des roturiers, faut pas
Fortuné.
Imaginer exactement, faut pas imaginer le paysan du coin. C'est des grands bourgeois. Ils font tous partie d'une élite. Vraiment, ça, il faut pas penser qu'il y a une classe sociale basse qui va lire ce genre d'écrits. Et donc, ils sont quasiment tous membres d'une académie ou d'une société.
Ce sont des hommes aussi, je suppose, majoritairement.
Exactement. Ça ne veut pas dire que les femmes qui ont accès à ces bibliothèques ne lisent pas. Mais en tout cas, ce qu'on a trouvé, ce sont effectivement la plupart du temps des hommes. Et donc, parmi les professions de ces hommes, souvent, ce sont des professeurs ou des universitaires. Mais on a aussi des grands fonctionnaires, des métiers globalement de l'éducation, de la culture et un tout petit peu de métiers du droit et des marchands. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'homogénéité dans le lectorat.
Et on ne sait pas, évidemment, c'est difficile à savoir, si ces lecteurs vont à leur tour partir ou si c'est juste pour leur culture.
Non, souvent ils ne partent pas, ouais. C'est du voyage de chambre en fait. On veut partir dans son esprit. Et puis il faut aussi penser qu'on peut posséder un livre, mais sans avoir jamais mis le nez dedans.
Aussi.
Donc on ne sait même pas en
oui,
fait le réel impact sur le lectorat.
Ouais, parce que les 52 lecteurs que vous avez sélectionnés, c'est parce que vous avez trouvé les livres chez eux. Enfin, vous saviez qu'ils possédaient les livres.
C'était les catalogues après décès en fait.
Ah,
l'inventaire
ouais.
après décès de tous les livres qu'ils avaient dans leur bibliothèque.
Ah ouais, mais ils n'ont pas fait de fiche de lecture eux-mêmes.
Ah,
ouais,
non,
d'accord.
Non.
Ouais, ça aurait
donc
été trop
ils
beau.
Le possèdent, mais après on ne sait pas s'ils ont mis le nez dedans ou pas.
D'accord. Il n'y avait pas encore quand même des clubs d'amitié comme on a maintenant. Si, il y avait
des clubs littéraires.
Littéraire, mais il n'y avait pas des clubs de internationaux, entre guillemets, entre...
Ça aurait été pas mal. Je ne pense pas. Ça aurait été pas mal, ça m'aurait bien arrangé.
Ah, vous avez encore 3 ans pour les
découvrir. Exactement.
En même temps. Et bon, alors d'accord. Alors maintenant, évidemment, il faut absolument qu'on aborde le contenu. Et on a trop envie de savoir quels étaient déjà les... qu'est-ce qu'on sait des a priori, enfin des stéréotypes de ces voyageurs et de ce qui, donc là je pense plutôt aux voyageurs qui font des guides ou des récits, et quels sont les stéréotypes qui éventuellement tombaient, enfin quelles étaient les surprises quoi. Vous avez des exemples?
Ouais, j'ai des exemples. Alors, il faut savoir que ces stéréotypes, ils sont pas arrivés tout seuls. Ils sont fruits d'un héritage très long qu'on peut faire remonter à l'Antiquité. Hein. Mmh. On peut penser à la Germanie de Tacite.
Ah oui, il prenait de la Germanie.
Où c'est tout un livre des plusieurs volumes sur la Germanie dans l'Antiquité. On avait déjà des stéréotypes qu'on retrouve encore au XVIIe et XVIIIe siècle.
Et c'était quoi ce qu'il appelait la Germanie? En gros, c'était où
l'Allemagne,
d'accord.
Les régions allemandes, plus ou moins actuelles. Hein,
ouais.
Mais en tout cas, les peuples germaniques... qui sont cousins des peuples scandinaves. Et donc, on a, par exemple, le mythe du bon sauvage qu'on va retrouver toujours au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc, le mythe du bon sauvage, c'est quoi? C'est que ces populations qui sont éloignées, finalement, des vices, de la modernité et des sociétés très développées, vont être bien plus purs. Ils ne vont pas être assaillis par l'alcool, l'argent, le jeu, la luxure, tout ce genre de choses. Et donc, ça, on le retrouve toujours au XVIIe et XVIIIe siècle.
Ah oui, pour les peuples du froid aussi, alors, parce que c'est vrai qu'on aurait... En général, le bon sauvage, on l'imagine plutôt en pagne, dans des latitudes chaudes. Enfin,
et bah, à cette époque-là,
en fait,
finalement, on est justement dans cette époque où on a à la fois le bon sauvage en Amérique, par exemple, qui a fait couler beaucoup d'encre, et ils essayent de faire les mêmes, de se poser les mêmes questions et les mêmes descriptions de ces peuples nordiques. Qui sont beaucoup plus proches, qui d'ailleurs c'est assez curieux pour ces voyageurs parce qu'ils disent géographiquement ils sont très proches de nous et finalement ils sont tellement éloignés de nous. Et il y a surtout quelque chose qui est très important de noter, c'est que pour eux il n'y a pas une altérité, il y a des altérités et elle est graduée en fait cette altérité. Et ils font une différence très importante entre les peuples sédentarisés de Scandinavie, norvégiens, danois, suédois, et les peuples nomades.
Donc, par exemple, des peuples nomades, c'est, oui,
les
c'est
Lapons.
Ah oui, ils sont encore nomades.
Ils sont toujours nomades. Les Lapons et les Samoyèdes. Alors les Samoyèdes, ils sont un peu plus vers la Sibérie. Et alors pour eux, c'est vraiment deux peuples, enfin deux types de peuples, deux ethnies qui n'ont rien à voir. Donc le Norvégien, par exemple, il est grand, il est fort, il est blond. Enfin, vraiment toutes les qualités qu'un homme puisse avoir. Et alors à l'inverse, le Lapon et le Samoyède, il est petit, il est brun, il est parfois comparé à un animal quand même dans les récits. Donc vraiment à la frontière entre l'humanité et l'animalité, alors que le Scandinave sinon est très 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 bien représenté la plupart du temps. Donc ça c'est hyper important. Et pareil, ces peuples nordiques beaux, parce que pourquoi beaux? Parce qu'en fait, ils se rapprochent de l'idéal, du standard idéal européen.
Ben oui, voilà,
et
c'est
et
ça.
Et là, c'est là que c'est très important de mettre en avant l'idée de comparaison et de surtout d'idée de base sur à partir de quoi on compare, de référence.
Mais il n'y a pas quand même ces traces vikings, enfin tout l'imaginaire viking, il est encore présent, je pense, non?
Alors,
vous l'avez pas trouvé spécialement?
Oui et non, il est parfois présent. Mais c'est vrai que je m'attendais à plus le retrouver. Il est présent, mais en toute petite bribe. Par exemple, oui, les ancêtres de ces Norvégiens qui étaient des gladiateurs. Alors, on se disait qu'ils n'étaient pas gladiateurs. On se doute que c'est les Vikings, ces grands guerriers, ces païens. Mais souvent, ça va être, par exemple, quand on va parler des monuments païens qui restent parfois dans le paysage. Mais ça va globalement s'arrêter là. Ou alors, quand on parle de la transition au protestantisme, on y avoir un petit rappel sur le fait qu'ils étaient païens bien après nous, en fait.
Oui, quand est-ce que le protestantisme est arrivé
Alors, très tôt,
diffusé,
hein, ça a été dans les premiers pays touchés par la réforme au XVIe siècle, pour des raisons politiques, hein, qu'on se le dise. La réforme a été instaurée très tôt dans les pays du Nord. Et donc ça, par contre, c'est une différence que font par exemple les Français, qui sont très catholiques, avec ces pays-là. Mais globalement, donc on a le beau Norvégien, grand blond aux yeux bleus, très pur, courageux, et puis de l'autre côté, le Lapon, petit, repoussant, évidemment fainéant, évidemment peu courageux. Donc c'est vraiment... On a deux grands stéréotypes qu'on retrouve dans tout, quasiment, les récits.
Ah ouais. Et d'autres stéréotypes plus sur le, je sais pas, le quotidien ou le.
Alors,
villes.
Alors les villes sont plutôt bien dépeintes à cette époque-là parce que elles sont très modernes. Je pense aux villes comme Copenhague qui sont bien plus modernes finalement que les villes françaises puisque elles sont entièrement rénovées avec des belles rues bien perpendiculaires, très larges, alors qu'on retrouve pas ça la plupart du temps en France. Hein. Donc ça c'est plutôt un exemple à ce niveau-là, souvent très propre. Au niveau des villes. Un exemple qu'on retrouve et qui là vraiment tient du stéréotype total et du fantasme, parce qu'il n'y a aucune preuve réelle, c'est, alors on appelle ça l'hospitalité lapone, c'est-à-dire que les voyageurs relaient un stéréotype, alors on ne le retrouve pas partout, mais relaient un stéréotype qu'on peut retrouver par exemple en Polynésie ou à Tahiti, comme quoi les femmes lapones seraient très ouvertes sexuellement aux voyageurs quand ils arrivent, que ce serait un honneur pour leurs hommes de donner leur femme aux voyageurs.
On a la prêter en tout cas.
Exactement, mais on n'a absolument aucune, il n'y a aucune réalité.
Et on ne sait pas d'où ça vient.
Et pas réellement.
Ah ouais.
Et alors, justement, M. Schnakenbourg pense que ce discours, il a replacé dans un cadre du développement d'une littérature déjà libertine. Donc, il y a un vrai fantasme.
Oui, c'est l'époque, ouais.
Exactement.
Ouais.
Et puis, qu'il y a un mythe de la sexualité lapone débridée en relation de trois éléments qui constituent déjà le sentiment de supériorité des Européens face aux Lapons. La pure performance sexuelle des hommes européens, qui se disent que finalement, s'ils attirent tant ces femmes, c'est que vraiment, ils doivent assurer quand même. Et puis finalement, la maîtrise des élans naturels des femmes européennes. Elles ont des élans, mais elles se maîtrisent contrairement à ces sauvages qui ne sont pas capables de se maîtriser puisqu'ils sont finalement à la frontière de l'animalité.
Mmh. On retombe dans le mythe du bon sauvage.
Exactement. Alors là, pas vraiment du bon sauvage pour le coup.
Sauvage. Du sauvage, tout court.
Et donc voilà, parce que pour eux, il n'y a pas de réelle mœurs sociale d'une vraie société bien construite. Puisque ces gens habitent dans des tipis au milieu de la neige, et donc ça va avec une image qui est complètement fantasmée et imaginée, celle-ci.
Des tipis, c'est pas des igloos, déjà.
Non, c'est des espèces de... Ça ressemble globalement, oui, à des tipis.
C'est des nomades.
C'est des tentes en peau.
L'ancêtre des yourtes, peut-être. Enfin non, ça c'est plutôt
c'est,
pour
c'est
le...
vraiment une forme conique, hein, parce qu'on a des gravures dans les récits où les voyageurs vont dessiner ce qu'ils voient. Donc, évidemment, il y a le traîneau avec le renne qui tire le lapon, il y a justement les tentes lapones, les vêtements, ça, ils vont beaucoup dessiner pour montrer ce qu'ils voient.
Oui, il y a pas mal d'ethnographie, justement, sur ce qui est dépeint par les voyageurs scientifiques. Alors, les aurores boréales, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est décrit vraiment précisément?
C'est assez impressionnant. Je pense à Olafsson qui était missionné. Alors lui, c'était un Islandais qui était missionné par le roi du Danemark pour faire... En fait, le roi du Danemark voulait comprendre l'Islande. Et donc, il l'a missionné pendant des années pour décrire tout ce qu'il voyait en Islande. Donc, ça prend 4 ou 5 volumes, je ne me souviens plus. Je crois que c'est 5 volumes où il décrit tout. Mais le moindre bulot qu'il croise, il va le décrire.
Wow.
Et donc, il décrit tout, absolument tout. Là, l'habitat, tous les animaux, tous les végétaux, la géologie, tout, tout.
Ah ben,
tout,
c'est une mine.
Exactement.
Mais là, c'est en quelle langue? En français aussi, non?
Alors oui, là, il y a une traduction française. Parce qu'à la base, c'est en danois, vu que c'est le roi de Danemark.
Oui.
Mais il y a une traduction française et qui est bien restée à la postérité.
Très bien. Bon, bah alors Marie Beaujouin-Marlière, on arrive déjà à la fin de cette émission, donc on se dit qu'on va en faire d'autres, hein, finalement. Comme ça, on saura.
Exactement.
On saura à la fin quelle est la réalité, quels sont les mythes autour de cette Europe du Grand Nord. À bientôt.
À bientôt, merci.